discute. Ce soir, le cinéma.
Cette émission est préparée par Aïssatou Ndoye, Boris Pinault, Copelia Ménardi et Camille André. Nous sommes ce soir, comme tous les vendredis, en direct du bar de la Maison de la Radio, Le Bel Air, où la prise de son est assurée par Nadège Antonini, Philippe Mercher et Jean-Benoît Tétu. À la réalisation, c'est comme toujours Thomas Beau, et je salue ce soir autour de moi Muriel Joudet, Corinne Rondeau et Thierry Chaise, avec à notre programme Mes Provinciales, un film de Jean-Paul Sivérac, Jersey Affaire de Michael Pierce et Allons Enfants de Stéphane Demoustier. Boris Pinault est également à mes côtés pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser sur Facebook ou sur Twitter, et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute ce soir à gagner des invitations pour Atelier à la Loupe, une exposition en quête de Damien Helvez jusqu'au 9 septembre au Musée en Herbe à Paris. Et nous commençons avec Mes Provinciales, nouveau film de Jean-Paul Sivérac, réalisateur français, pas toujours très chanceux jusqu'ici avec le public. Peut-être que son sort va changer avec ce film qui a déjà reçu un bon accueil critique à la dernière Berlinale, un film grand, au moins par sa durée, près de 2h20, tourné en noir et blanc dans le Paris contemporain. L'histoire d'Étienne, jeune Lyonnais qui monte à Paris pour suivre des cours de cinéma à l'université. Il y rencontre des professeurs, des petites et grandes amoureuses et d'autres étudiants, parmi lesquels le mystérieux et arrogant Mathias, auprès desquels il éprouve sa culture, sa vocation et son désir de faire des films.
Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance.
Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous, vous faites quoi pour ça?
Des films?
Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète?
Action!
Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, hein, que le monde est là, pour nous. C'est des moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non?
C'est dur loin de toi, je me sens abandonnée.
Tu rigoles? Moi aussi, je me sens seule ici.
Bah oui, mais toi, c'est ce que tu veux, là, être ici, loin de moi.
Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril.
Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre est pas au courant, par exemple, est-ce que c'est encore tromper?
Tu m'appelles tout de suite, tu sais.
Je t'attache pas.
Il n'en est pas question.
Pourquoi c'est toujours n'importe quoi? Y a personne qui sait être avec quelqu'un? Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois.
Chaque jour, je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase.
Corinne Rondeau, pour commencer sur ce film, Mes Provinciales.
Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est, c'était un peu un ovni dans les sorties actuelles, je trouve. Et puis c'est aussi un film qui nous met tout de suite dans une surprise parce qu'il a une sorte de marque nouvelle vague. En tout cas, il y a quelque chose de 68 qui est quand même là sur des décisions de choix de vie, mais aussi d'implication, comme on l'a entendu dans la bande dans le
la bande annonce.
La bande annonce. Et j'étais surprise parce que on est tout de suite dans un flottement. On ne sait pas dans quelle époque on est. Et en même temps, ce flottement nous fait vraiment rentrer justement dans cet horizon de cette jeunesse qu'on va voir à Paris 8, qui vont faire leurs études pour faire et du cinéma, mais aussi de choisir la manière de faire du cinéma. Et je trouve que cet horizon a été traité avec beaucoup de diversité. C'est pas monolithique sur la jeunesse. C'est pas non plus monolithique au sens de... Elle est toute resserrée ou alourdie par un discours. Il y a à la fois un éclatement. Il y a l'éclatement de ceux qui pensent que effectivement faire du blockbuster c'est bien, de repenser à la cinéphilie c'est bien aussi, et puis c'est aussi agir. Donc il y a quelque chose de ce film qui embrasse à la fois notre époque, qui est une époque de discours, une époque aussi de commentaires, et par ailleurs aussi une époque de comment faire les choses, comment agir à travers ce que nous faisons. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà c'est, je dirais, une des racines du film. La dimension atemporelle du film est une deuxième, un autre temps, enfin pas un temps, mais en tout cas un état du film dans lequel on vit vraiment ces 2h17. Et cet horizon, vraiment, moi je l'ai vécu avec une des grandes forces du film, c'est la parole. J'ai retrouvé un cinéma de parole. Alors, il n'est pas lourd en termes de discours pesant, intellectualisant. Bien sûr, on pense à Eustache, bien sûr, on pense à Romer. On pense en fait à des dialogues où il y a quand même un horizon de corps. Il y a des corps, il y a le corps couché d'Étienne tout le temps, il y a des corps couchants parce qu'il a aussi ses provinciales qu'il met dans son lit. Il y a de l'arrogance dans le corps de Mathias, il y a le corps toujours disponible de Jean-Noël puisque c'est un triptyque, on va dire, de garçons. Et autour de cet Étienne avec ses deux camarades qui lui sont le plus proches, il y a aussi toutes ces femmes, Annabelle et d'autres aussi qui vont tourner autour de lui et qui vont justement le conduire à être dans un choix, mais en même temps c'est le personnage du film le plus suspendu comme le film, à savoir il est indéterminé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est tout le temps en flottement et j'ai vraiment une sorte d'admiration pour ce film, d'abord parce que le réalisateur est gonflé parce qu'il manifeste un désir de beauté. Il y a des plans que je trouve extrêmement beaux, non pas seulement des gros plans, mais surtout aussi il y a une scène avec Mathias sous un pont et Étienne, où là il y a une mise en abîme. Non seulement le film est une mise en abîme du cinéma, puisque ce sont des étudiants qui parlent de cinéma, et le réalisateur, il est aussi prof de cinéma. Mais c'est aussi cette mise en abîme sous ce pont où Mathias, avec les images et ce qu'il dit, montre finalement la beauté en représentation. Et ça veut dire que le réalisateur n'est pas du tout naïf. Il fait pas un cinéma pour refaire de la nouvelle vague. Il fait un film de 2018 avec une pensée sur l'horizon. Qu'est-il possible de faire aussi au cinéma ? Et je trouve que cette manière de vouloir penser aussi la beauté et cette nuit sous ce pont avec deux réverbères sont vraiment ensuite en écho à ces deux lumières que sont ces deux garçons qui veulent faire du cinéma et un cinéma, qui sont habités par la cinéphilie, faire un cinéma qui soit un autre type de cinéma. Bon, ce qui réussit ou ce qui ne réussit pas, ça c'est autre chose.
Thierry Chasse, je vous vois acquiescer.
Ah, je partage l'enthousiasme total sur ce film qui, alors, c'est un film, il fait 2h20, mais d'une richesse que je trouve absolue, parce que c'est un film, évidemment, un récit initiatique, c'est un film sur l'amitié, c'est un film sur l'amour, c'est un film sur le cinéma, c'est un film social, et tout ça avec une fluidité, une limpidité que moi j'ai trouvé absolument fascinante dès le départ, en effet, et qui ne vous lâche plus. C'est pourtant un film qui pourrait jouer avec tous les clichés possibles, parce que tous ces films-là, on les a déjà vus, on a l'impression d'avoir tout vu, que si c'est un peu mal fait, ça va devenir un cinéma très poseur qui va avoir un regard de haut sur ses personnages, lui, l'adulte, sachant et savant, sur des personnages en train d'apprendre. Et je trouve qu'il y a dans le film une limpidité qui est due au fait la simplicité quasiment du geste. C'est beau, mais c'est simple. Et qu'il y a une manière comme ça de créer justement tous ces discours. Est-ce qu'on aime plus le giallo ou autre chose ? Est-ce qu'on va se perdre à faire du cinéma commercial ? Est-ce que c'est toujours du cinéma ? Toutes ces questions-là, la manière dont le jeune héros est amené, on sent bien que le prof le soutient, il y a une formidable scène, je trouve, à table avec ce prof et son fils, qui d'un seul coup, en tous les cas, essaie de lui faire comprendre que s'il est là, c'est aussi pour des questions sociales, et rien n'est lourd. On passe de l'un à l'autre avec une virtuosité totale et avec une foi dans le cinéma qui, moi, m'a bouleversé tout le long, c'est-à-dire que c'est par la beauté, en effet, des plans, c'est par la beauté des dialogues, c'est par la beauté des images qu'on raconte cette histoire-là et qui fait que tout prend sens, tout fait sens, mais avec une croyance absolue dans le 7e art qui m'a, moi, beaucoup ému.
Muriel Joudet, on parlait il y a peu de temps ensemble de Mektoub. Je trouve intéressant de les voir en parallèle parce qu'à nouveau, un film long sur la jeunesse, bon, c'est une autre jeunesse. Est-ce que vous avez été séduite autant que par Mektoub, par Mes Provinciales ?
Alors non, mais il y a énormément de ponts. C'est assez incroyable, mais souvent ça arrive comme ça que deux cinéastes qui ne se connaissent pas fassent à peu près le même film. Et c'est assez passionnant. Il faudrait presque faire une rétrospective des films qui jumeaux. Qui sortent à peu près en même temps. C'est, pour moi, Mes Provinciales, c'est un peu Mektoub, mais sans la mère donc d'Amine qui dirait « va t'amuser », et qui couvrirait la fenêtre pour que la lumière rentre. Et voilà ce qui arrive à un personnage qui, finalement, n'est pas suivi par sa mère, qui n'a pas de mère pour s'occuper de lui. Pour moi, c'est un peu ça. Alors, je l'ai vu il y a 2 heures, donc le film est en train de... Je suis en train de digérer. Je suis en train de penser que je l'aime beaucoup tout en trouvant qu'il y a plein de problèmes et que ça le rend absolument passionnant. Déjà, j'aime beaucoup le fait de toujours, voilà, d'avoir affaire à un objet qui me rappelle Eustache, qui rappelle aussi énormément Philippe Garrel. C'est quelque chose qui est très français, qui est un peu à nous, qui est un peu notre petit plaisir coupable. Et moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver cette texture-là, de ce cinéma très français, qui est, comme disait Corinne, à la fois atemporel et je dirais même inactuel. Et c'est quelque chose qui est très risqué de faire du cinéma inactuel, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de romantisme qui traverse le film, qui peut être très ridicule. Alors moi, j'ai mis quand même 30 minutes à rentrer dedans, pour une raison très simple, et en fait, c'est un vrai problème de cinéma, c'est je me suis dit, comment est-ce qu'un film peut parler, est-ce que les personnages dans un film peuvent parler de cinéma sans être ridicule, sans être un peu bête, sans être pompeux, et je me suis dit que c'était peut-être une mauvaise idée de filmer des personnages qui faisaient des études de cinéma, parce que c'est comme si c'était une matière qui n'était pas cinégénique. Parler de cinéma, parler de littérature ou parler de philosophie au cinéma, ça ne marche pas, ou ça marche très rarement. Il faut un grand talent pour le faire, mais j'ai l'impression que c'est un risque à prendre que Sivérac prend, mais ça donne des scènes quand même assez ridicules. La prof qui donc fait ce cours sur le giallo et le cinéma italien, pour moi ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que le cinéma ne peut pas parler de lui-même, et ça me gêne, et en même temps voilà, ça me pose des questions. Je me dis pourquoi, j'ai pas encore la réponse, je me demande juste pourquoi. Donc c'est quand même un gros morceau du film, ça, les discussions sur le cinéma, sur la philosophie, un personnage qui parle de Novalis, et donc qui cite Novalis, et son copain dit ah c'est Novalis, et il dit gagné, enfin c'est un peu gênant. Il y a un côté un peu complaisant dans la manière dont le film charrie énormément de culture. Et en même temps, c'est des personnages qui existent, c'est quelque chose qui peut exister. Moi, je m'identifie à ces personnages, mais je ne veux pas voir ça au cinéma. Ça me gêne de voir des livres partout, de voir des gens très cultivés, des gens qui ne pensent qu'à la culture, parce que peut-être c'est trop proche de moi. Et donc, voilà, ça c'est un gros morceau du film qui m'a un peu gênée. Et à côté de ça... toutes les scènes avec les jeunes femmes, toutes les scènes d'amour, la façon dont le film utilise le fondu, enchaîné, le montage, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement élégant. Il y a dans la partie très animale du film, finalement, dans tout ce qu'il y a de très proche avec Mektoub, ça, je trouve ça extrêmement réussi, extrêmement élégant, mais voilà, avec un côté presque suranné, mais qui me le rend infiniment sympathique.
Moi, j'ai vu aussi le côté théorique et j'ai craint, mais il me semblait que justement le film réussissait à dissoudre un peu le côté dogmatique dans la polyphonie, parce que de fait, il y a de multiples personnages qui parlent de multiples cinémas différents, et du coup, ce qu'on peut croire être une opposition ou une prise de parti du réalisateur, enfin un point de vue du réalisateur sur le cinéma, se contredit immédiatement dans une figure qui dit des choses différentes. En fait, ils sont trois ou quatre jeunes hommes à beaucoup parler de cinéma, et ils n'ont pas du tout la même vision du cinéma. Et on sent que, en bon professeur, entre guillemets, pour le coup, Jean-Paul Sivérac, j'ai l'impression qu'il les estime tous autant les uns que les autres. Corinne Rondeau, vous n'êtes pas d'accord ?
Si, oui et non. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de contradiction, parce que ce qu'il arrive à faire, Sivérac, c'est une chose absolument extraordinaire pour moi au niveau du jeu des acteurs. Bien sûr, il y a un personnage qui est Étienne, qui est un peu plus. Parce qu'il est indéterminé, donc il est beaucoup plus proche des autres qui sont plus marqués sur leur identité. Mais ce qu'il arrive à faire, c'est qu'ils sont tous vrais. Ils sont tous là. C'est-à-dire, ils en sont même exaspérants d'être là. Et comme moi, j'ai eu la sensation pendant le film qu'à un moment donné, je me dis, mais j'ai le même comportement avec quelqu'un. C'est-à-dire que je peux aimer quelqu'un beaucoup en me disant, mais il est exaspérant. Et en même temps, on l'aime beaucoup. Et en fait, ce n'est pas de la contradiction, c'est la capacité à ce que Sivérac a mis dans ses acteurs, qui est en fait de mettre de... Je dirais, moi aussi, j'ai de l'admiration pour des œuvres. Et cette admiration fait partie de mon existence. Et il y a quelque chose d'un miroir. Alors, moi, j'ai à peu près l'âge du réalisateur. Je suis un peu plus jeune, mais on n'a pas la même génération, justement, qu'à...
Muriel
et notamment Boris aussi qui est avec nous. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se joue là sur comment rendre compte d'un rapport aux objets qui produisent aussi la manière dont on produit un horizon existentiel. Et c'est ça, la grande force du film pour moi, c'est qu'il fait passer ces films russes, parce que effectivement, la séquence dont vous parlez de cours, elle est à côté des clous. Mais justement, parce que quand eux parlent de cinéma, ils en parlent avec leur, je dirais, maladresse ou leur excès. Donc, et c'est ça qui est juste. Mais c'est pas hystérique, à aucun moment. Et je trouve qu'il y a une capacité chez Sivérac à voir exactement ce que sont les jeunes, alors peut-être beaucoup de références, mais moi je crois que ça existe. Peut-être qu'ils sont plus minoritaires que dans les années 60, mais ça existe aussi de vivre avec ces choses-là. Donc je trouve que c'est pas un équilibre, c'est comment en fait ce cinéma qui rentre dans des corps, par la vision, enfin par les yeux, qui doit ressortir par des films, eh bien il en fait quelque chose, c'est Virac, et qui conduit vraiment le film à une sorte de... Oui, d'acmé à la fin du... Moi, j'ai pleuré à la fin du film. Je trouve qu'avec rien, parce que ce film, c'est quoi ? Des dialogues avec des corps de jeunes.
Donc, tourné et, très, très vite, écrit très vite.
Et Paris. Paris qui est la ville dans laquelle voilà, les gens montent pour avoir cet horizon, le construire. Voilà, moi, j'ai trouvé le film assez remarquable.
Je vais vous redonner tout de suite la parole. Thierry, peut-être une petite réaction sur Twitter, Boris Pinault.
Oui, via Twitter, en effet. Anto Fischerbe écrit sur un film qui fourmille d'idées, de réflexions et de poésie. En prenant le pari de transposer l'esprit jeune cinéphile de mai 68, son esthétique et ses sujets dans le monde d'aujourd'hui, nombriliste, oui, pas toujours totalement authentique, mais séduisant.
Thierry Chaise, c'est quand même un reproche qui lui est beaucoup fait, hein, cette histoire de nombrilisme.
Oui, mais moi je trouve justement que c'est... Ils sont jeunes et donc ils s'expriment par le cinéma et que forcément ils font des sorties de route parce que c'est leur manière de dire quand je dis j'aime le giallo ou je refuse tout film commercial, c'est une manière d'être au monde. Et d'un seul coup, ces maladresses-là, et je suis d'accord avec Corinne Rondeau, sont intrinsèques. Alors oui, simplement je trouve que le nombrilisme disparaît dans la direction d'acteurs. Vraiment, c'est rare de voir à ce point-là des gens qu'on a vus déjà jouer comme Diane Rouxel qui était dans le dernier Bertrand Mandico, comme Sophie Verbeek ou des apparitions comme le premier rôle, avec une tonalité juste. Ils jouent pas tous pareil, mais il y a personne n'est fou, alors que vraiment, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à jouer, c'est assez étonnant, avec un tournage, comme on l'imagine, assez réduit. Et je trouve que ce nombril disparaît justement dans ces mille et un personnages, qui fait que d'un seul coup, je pense que chaque spectateur peut en choisir un et dire « Ah, à cet âge-là, j'étais comme ça » ou « En ce moment, je suis comme ça ». Et c'est pour ça que tout est fait pour être nombriliste. Ce noir et blanc, en effet, sur le papier, on se dit « Oh là là, ça va être insupportable ». Et justement, il arrive à faire l'inverse, c'est un tour de force.
Il faut les citer quand même, ces acteurs qu'on connaît peu, notamment les deux principaux, Andranik Manet qui joue donc Étienne et Gonzague Van Der Veselex, que moi j'ai trouvé époustouflant, une nouvelle personne dans le cinéma français, ça fait toujours plaisir. Muriel Joudet.
Oui, non, c'est vrai qu'il y a un côté, et c'est ça qui est très beau dans le film, atelier avec des jeunes acteurs sur 2h17, et pour moi c'est ça le cinéma français, c'est à un moment c'est des acteurs, et ils sont tous excellents. La première colocataire, elle est incroyable, je la trouve, mais donc il y a des présences qui existent. Voilà, je suis désolée, j'ai pas retenu les noms, les prénoms, tout ça, mais il y a des, voilà, ils existent tous, et c'est ça qui, à mon avis, déjà sauve le film. Donc Sivrac a fait un casting incroyable, et pour peut-être faire un pont avec le Kechiche, là où pour moi le Kechiche me paraît plus fort, c'est que le Kechiche filme des personnages, on a déjà parlé, qui ne disent pas grand-chose, mais ça existe. Et là, c'est les personnages disent beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. J'ai noté quand même une phrase, vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose. Alors ça, donc quand on parle de politique, même quand on a 18 ans, c'est une phrase, à mon sens, un peu trop vague, quoi. L'état du monde, pour moi, c'est quelque chose qui fait que d'un seul coup, moi, je recule, ou il y a un souci de crédibilité quand le personnage donc, de la zadiste parle de politique, qui me gêne un peu. Et même chez Garrel, hein, quand Garrel, il y avait une petite phrase dans un des films de Garrel, une petite pique à l'adresse de, enfin, qui visait Sarkozy, et c'était ce qu'il y a de plus ridicule dans les films de Garrel, c'est quand il se pique de politique. Donc voilà, peut-être en fait, moi, je dirais que le film gagne à être encore plus nombriliste qu'il ne l'est, peut-être laisser l'état du monde en dehors de lui et à vraiment se resserrer sur les chambres, hein, sur la drague et le flirt. Moi, ça me va très bien sur 2h17, des acteurs de la drague et des lits, c'est parfait.
Corinne Rondeau, un dernier mot.
Pas de drague. Mais par contre, les filles ont une autonomie géniale dans ce film. Je veux dire, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Là, ça, c'est génial. Mais alors, sur le nombrilisme, moi, je sais pas si c'est ça, Muriel, qu'il faut resserrer ou quoi. Moi, je trouve que oui, peut-être. Il faut même en rajouter. Qu'on parle trop ou qu'on parle pas, c'est à peu près la même chose. Qu'on parle trop et qu'on dise des choses aussi naïves. Moi, j'ai des étudiants, ils disent ces choses-là, donc c'est réel. Et j'ai juste envie de dire aussi que le film porte aussi la question du couple. Parce que tout le temps, les compagnes d'Étienne lui disent « Mais tu ne penses qu'à toi, on l'a entendu aussi dans la bande annonce. » Et en fait, je trouve que c'est... On a l'impression que c'est un prétexte, mais c'est juste. C'est-à-dire comment cet homme qui aime les femmes avec qui il est, avec qui il a quelque chose, c'est sûr, même s'il est, il a un côté assez neurasthénique, avec la pupille très dilatée, en fait, ce garçon ne vise qu'une chose, et on va lire trois fois le même passage des lettres luthériennes de Pasolini, vous savez, le petit traité pédagogique qui a l'attention justement des jeunes, et il parle justement dans cet extrait vous ne devez rien faire d'autre que de continuer à être vous-même. Ça signifie être continuellement irreconnaissable, oublier immédiatement le succès et continuer imperturbable, obstiné, éternellement, à prétendre, à vouloir, à vous identifier à ce qui est autre, à scandaliser, à blasphémer. Je pense que quand vous avez ça comme horizon, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'à vous resserrer tout le temps, tout le temps. Et ce film, c'est un film contre tous les autres. Et ça peut être aussi une ambition. Et moi, je dis chapeau à l'ambition comme chapeau à la beauté. Et je crois que j'ai rien d'autre à dire.
Oui, Muriel.
Je trouve que la fin, ce qui arrive au personnage, rend le film encore plus beau. C'est-à-dire que
le dernier plan
éclaire le film de quelque chose de désespéré qui, pour moi, est la grande intelligence de Sivrac, c'est sa fin. Vraiment, ce qui arrive à tous ces personnages.
Mes provinciales, donc, de Jean-Paul Sivérac. Allez-y, il est sorti mercredi dernier. À suivre dans la dispute Jersey Affaires et Allons Enfants.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous sommes toujours au cœur de la dispute, ce soir consacrée au cinéma avec un film britannique cette fois, Jersey Affaires, un premier long métrage de Michael Pierce. Le titre original en est Beast, la bête, mais le titre français veut certainement jouer sur un décor, l'île de Jersey, dans laquelle se déroule toute l'action de ce film lointainement inspiré d'un fait divers qui se donne comme un thriller. On comprend vite que ce n'est pas exactement le cas. L'histoire de Moll, donc une jeune fille issue de la bourgeoisie anglaise en révolte contre sa famille, qui tombe amoureuse d'un mystérieux natif de l'île, Pascal Renouf, alors que dans les parages rôde un violeur et tueur d'enfants.
Don't do that, please.
Why?
Don't, please, don't do that.
What are you doing, you freak?
You're wounded. I can fix that.
Where were you?
I'm in a relationship, Mum. Can't be there all the time.
You can't just change the rules because someone's showing interest. Maybe I've been too soft on you.
How long have you known Pascal Renouf?
A couple of weeks.
We're dealing with an extremely dangerous individual.
There's a killer stalking this island and you abandoned her because you wanted to go for a drive?
He doesn't love you, Mum. He can't love.
Why don't you tell me that you didn't do it?
How can you ask me that?
Can you keep a secret?
Thierry Chaise sur ce Jersey affaire, fameuse affaire.
On descend un peu de niveau.
Ah, c'est un autre style.
Par rapport à Jean-Paul Sivérac, moi... J'ai une affection pour ce film, et c'est l'actrice que je trouve absolument remarquable. Elle s'appelle Jessie Buckley, qui n'a pas fait beaucoup de longs métrages, qui chante, qui s'est fait connaître par un talent show en Grande-Bretagne, et qui déboule là-dedans, donc dans ce rôle de la sœur mal aimée de cette famille. La grande sœur a toujours été la plus reconnue, celle qui va faire le meilleur mariage, celle qui est la plus jolie, ça plus tout. Et elle, ça a été la sœur mise de côté. Et puis cet homme va surgir, cette rencontre. Évidemment, l'homme paraît bizarre, paraît étrange, paraît plus qu'étrange et pourrait être un serial killer. Et évidemment, puisqu'elle a enfin quelque chose à elle, elle va aller jusqu'au bout des choses et le défendre. Quand je raconte ça, j'ai l'impression que je raconte un film finalement dont on perçoit à peu près tous les rebondissements. Je trouve que le climat qui est installé, sans doute aussi parce qu'on est sur cette île de Jersey avec ses paysages, crée un climat un peu étrange, qu'on a envie, par ce climat étrange, d'imaginer un film qui ne vient, pour moi, jamais tout à fait, pour ce qui se veut un peu un thriller, évidemment aussi une histoire de famille, évidemment une histoire d'amour, mais... Au bout d'un moment, et surtout au bout de quelques rebondissements qui finalement ne font que tourner en rond, on arrête de se poser les questions, sauf pour moi, le plaisir à observer cette comédienne qui a une palette, je trouve, assez large et qui fait tenir le film pour moi jusqu'au bout, mais un film qui reste une série B, finalement assez classique.
Muriel Joudet.
C'est vrai que le film a une capacité assez émue à nous faire croire qu'il se passe quelque chose à l'écran. On est là, avec un point d'interrogation au-dessus de la tête, on attend. Et puis après, le film se termine, on se dit « Ah bah mince, je l'ai déjà oublié, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est assez j'ai l'impression d'avoir beaucoup de films comme ça, qui finalement accumulent extrêmement beaucoup d'ingrédients, c'est-à-dire du design sonore extrêmement présent, qui est très pénible et qui passe son temps à anticiper sur le danger qui va survenir, mais le danger n'arrive jamais, le mystère n'arrive jamais. Des acteurs très charismatiques, très beaux, qu'on croirait sortir d'une pub pour parfum. Bon, ils sont à la fois ingrats et
vous
très
êtes durs, hein, parce qu'elle, elle a quand même un physique particulier, pour le coup, c'est pas anodin. Ouais.
Non, mais ils sont à la fois, c'est à la fois des gueules cassées, en même temps, ils sont très beau, c'est-à-dire que je pourrais les voir dans une pub pour n'importe qui. Il y a un côté ambigu, mais pour moi ils sont très lisses finalement, donc même dans leur excentricité. Et puis l'utilisation du ralenti, les regards langoureux, les silences, les mines sérieuses, tout ça ça s'accumule. Enfin, tous les signes extérieurs de films d'auteur s'accumulent sans jamais qu'il n'y ait un film, et c'est très surprenant. Et ça me fait dire que vraiment là encore, je le répète, je vois énormément de films comme ça parce qu'on se rend compte qu'un grand film ou ne serait-ce qu'un bon film n'est pas une accumulation d'ingrédients. Et j'insiste sur ce son design qui pour moi est le design sonore qui est un problème en soi, qui pourrit le film, mais dès le début, c'est-à-dire que j'ai passé mon temps à imaginer le film sans musique, et pour moi, il y avait infiniment plus de mystère à partir du moment où il n'y avait pas de musique. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment... j'ai peu de choses à dire, parce que je suis assez consternée par la fadeur de ce film, qui en plus fait mine de mélanger les genres, et aussi, il y a une sorte de métaphore fumeuse sur l'amour comme prédation. Bref, tous les clichés qu'on a pu voir dans plein d'autres films de ces 10 dernières années sont réunis dans ce film, et c'est une liste de choses à ne pas faire pour faire un bon film, quoi, pour moi. Ce film, voilà.
Bon, Corinne Rondeau.
Oui, en fait, moi, alors c'est un premier film, et je pense qu'il a... Comme dirait Arnaud, on veut tout mettre dans le premier film.
Oui, puis fait pendant des années et des années, donc on peut imaginer qu'il y a
beaucoup de choses dedans. Mais le problème, là, c'est qu'il ne lâche rien. Alors, vous avez quand même deux protagonistes qui ont des parts d'ombre. Alors, on sent qu'elle a une psychologie, parce qu'il y a des rêves. Mais les rêves, on ne sait pas s'ils sont vrais. Et puis, au bout d'un moment, on a compris que c'était des rêves. Donc, il y a une part d'ombre. On ne sait pas si elle a eu un traumatisme, vous voyez. Mais ça crée une sorte de pesanteur. Mais là, après, c'est des tonnes derrière le personnage. Puis après, vous avez l'homme des bois qui surgit. Donc, Jesse Buckley. Non, vous l'avez... Ah, c'est pas lui. Ah, le garçon, il s'appelle comment?
Il s'appelle...
Bon, je sais plus.
Johnny Flynn.
Johnny Flynn, qui a une jolie barbe, qui le fait très bien avec les yeux. Et non, mais je l'ai trouvé très appétissant, il n'y a pas de problème avec ça. Mais alors lui, comme il sort des bois, qu'il est braconnier, qu'on est sur cette île, on se dit que depuis des générations, il est là, il le dit un peu à table, vous êtes sur mes terres. On se dit, ah oui, d'accord, lui aussi, il a un passé. Alors il veut pas lâcher ses parts d'ombre, et en même temps, il y a le thriller, qui serait l'inspiration de faits de réels, d'un violeur à Jersey. Et on se dit, bon, tu peux pas lâcher un peu l'affaire? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de faire un thriller avec, il y a quelque chose à trouver, c'est-à-dire un assassin, pareil, violeur de petites filles par ailleurs. Et donc, en fait, il déplace sans arrêt le violeur pour le ramener à des dimensions qui sont de deux marginaux vont-ils s'aimer, trouver leur part d'humanité? Et au milieu de ça, vous avez le policier dont on fait traîner à un moment donné une légère suspicion, parce qu'il y a un peu d'Hitchcock avec un rêve, avec un ciseau.
Ils s'en revendiquent d'ailleurs.
Vous avez le soupçon sur tous les... Bon, on n'en peut plus, quoi. Donc, effectivement, je partage les deux avis, un plus fort que l'autre, oui, de mes camarades. Mais ce film, à la fin, je me suis dit, ah, mais il a failli finir gore. C'est-à-dire qu'il hésite, même dans le genre... Il aurait pu faire un drame romantique d'un coup. Il aurait pu faire vraiment un thriller, mais en abandonnant ses parts d'ombre, des personnages qui en fait embourbent en permanence. Parce que le côté la fille, et là-dessus vous avez dit d'ailleurs, c'était très clair, Thierry, vous avez dit l'histoire de la famille, l'histoire de, bon, évidemment c'est des histoires. Et là-dessus sur une petite île, alors le côté, en plus on va grossir, vous voyez, on va agrandir, on va faire un blow-up sur cette île où il se passe des choses, mais en fait l'austérité. Et grosso modo, le film tient sur une formule. Le mal ne nous a n'ont-ils pas été transmis, quoi, grosso modo. Donc moi ça me saoule, quoi, vous voyez. C'est-à-dire, je me suis ennuyée, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Je me suis dit, peut-être qu'à la télé, ça passerait bien. Mais vraiment, en étant très honnête, je me suis dit, pour le cinéma, c'est pas possible, quoi.
Je sais pas si c'est une question de grand écran, mais en effet, ce qui est assez étonnant, c'est que un grand ennui résulte d'une sorte de foisonnement de pistes qu'on prend et qu'on lâche à peu près tout le temps. Moi, je suis quand même d'accord avec Thierry Chess sur la performance de l'actrice, notamment dans les scènes où elle est toute seule. Ça fait un peu du bien parce que du coup, on prend un petit peu le temps de l'observer, elle. Et une scène, bon, je ne vais pas révéler l'histoire, mais bon, de toute façon, ce ne serait pas un grand intérêt, mais où elle creuse un trou et elle passe une nuit dans un trou de terre que je trouve assez belle. C'est quand même une image qui m'est restée du film Thierry Chess.
Je suis entièrement d'accord, mais c'est ça qui est agaçant, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des choses, mais on a l'impression d'une bande démo, de dire, ah, regardez, messieurs les Américains, je peux faire un thriller, je peux faire un film gore, je peux faire un film de femme, je sais diriger des comédiens, et à force de ne pas choisir, on s'énerve parce qu'on se dit, allez, fais quelque chose. Et je trouve que du coup, il regarde mal justement cette comédienne, il fait pas assez confiance. Taisons. Déjà, si on enlevait de la musique, on enlevait des dialogues. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est aussi un premier film et c'est aussi une expérience qui fait que tout est très redondant et que ces 1h50 sont aussi là pour ça. On a l'impression qu'on peut couper un peu partout et qu'on arriverait facilement à 1h20 et qu'il ne manquerait pas grand-chose. Et c'est ça qui est un peu dommageable.
Et sur l'image, lui se revendique quand même d'avoir travaillé l'image, puisqu'il l'a filmé dans un endroit où il a grandi, donc l'île de Jersey, où il est né, je crois, et où il a grandi. Est-ce qu'il a réussi à faire quelque chose avec ça, Muriel Joudet?
C'est juste que tout est très travaillé, tout est à sa place, tout est joli, mais voilà, ça fait partie de cette catégorie de films où tout est voilà, c'est la machine à cinéma qui tourne à vide pour moi. Il n'y a plus rien et on sent que le cinéaste n'a son désir est partout et donc nulle part, qu'il y a pas de regard et voilà, c'est une sorte de cinéphilie qui tourne à vide aussi. Et je suis d'accord pour dire que je reviens sur les acteurs qui sont très bons, mais comme le film est très antipathique, ils le sont avec le film. Et quand même, j'ai un petit problème quand même avec des marginaux, voilà, qui ont l'air de sortir de tout droit de Brooklyn, quoi. Il y a un côté, à un moment, ils ont des aspérités, mais ils sont, enfin, ça me dérange un peu. Et le film est un peu comme ça, à la fois très joli, très mignon, presque un côté Sundance, et en même temps, on joue sur quelque chose de très aride et moi cette joliesse là m'insupporte. À un moment, allons-y à fond et prenons une tête de serial killer. Voilà, c'est ça qui me dérange beaucoup dans le film.
Corinne Rondeau.
Oui, parce qu'en vous écoutant en parler, je me dis, mais en fait, il a fait un thriller à vide, c'est-à-dire qu'il a tourné autour du serial killer. Parce qu'en fait, est-ce qu'on est vraiment persuadé de qui est le serial killer dans le film? Non. Tout se joue sur justement cette psychologie qui se joue à travers ces deux personnages. Et en fait, il aurait pu pousser cette dimension de, eh bien en fait, je fais un thriller pour ne pas vous dire qui est. C'est-à-dire que je le fais en négatif. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Puisqu'après tout, le cinéma américain, c'est de nous dire, ah, c'est lui, vous l'aurez de toute façon à la fin. Donc on voit bien qu'il est sur cette bordure, il est sur cette frontière, il est hésitant. Il est hésitant au point de vouloir le faire basculer du côté de l'actrice qui va vouloir savoir qui est cet homme qu'elle aime, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On ne le sait pas même à la fin du film. Enfin, moi, il me semble. Je crois que d'autres pourraient dire autre chose que ce que je viens de dire. Hein, donc, je n'ai rien spolié. Mais par contre, sur la question que vous posiez, Lucille, je trouve que sur l'île de Jersey, on ne connaît pas l'île de Jersey. La seule chose qu'on apprend de l'île de Jersey, c'est une culture austère. Qui est représenté par
c'est
la mère.
Le milieu bourgeois, pour le coup, voilà. C'est pas si mal fait. Parce moi, que je c'est trouve les scènes qui sont filmées au sein de la famille de la jeune
alors
fille.
Alors oui, mais là-dessus, le côté anglo-saxon normand, avec la mère, son austérité, son autoritarisme, un père malade, donc elle doit s'occuper de son père, et en même temps, sa mère qui n'est jamais là, est toujours là pour lui dire, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, qui incarne vraiment la perfection, l'austérité. Moi, j'ai beaucoup aimé cette femme, cette actrice, du moins. Je trouve qu'en fait, il ne fait que tirer le film vers des identités, des stéréotypes. Alors que je pense qu'il aurait beaucoup plus... Enfin, je sais pas, une des hypothèses que, dans mon ennui qui a été, c'est pourquoi je vois pas plus de paysages de Jersey? Parce qu'on voit souvent la falaise, on voit un bunker au tout début, mais en fait, on voit rien, quoi. On voit rien.
Il a été peu filmé à Jersey, finalement, hein, le film. Hein. Très peu de scènes ont été filmées.
C'est peut-être une des raisons, je ne le savais pas. Mais je trouve que, justement, le paysage aurait pu permettre au film de gagner quelque chose d'une intensité ou quelque chose de sourd. qui aurait pu même, je veux dire, au lieu de mettre les parts sombres, peut-être ramener une inquiétude sur cette terre, puisque c'est quand même le but du film, de nous dire, ouais, dans l'insularité, il se passe des choses.
Boris Pino, peut-être quelques réactions sur Twitter. Tout le monde n'est pas négatif hein, sur ce film, dans la presse.
Un autre son de cloche sur Twitter aussi. Le très beau et noir Jersey Affair, écrit Born to Watch, est le récit d'une romance maudite et animale entre deux âmes sombres, grignotées par leur pulsion de mort, emmenées par un formidable couple d'acteurs et Cyril Despontin, de saluer comme vous, Lucille, et comme Thierry Chaise, la performance de l'incroyable Jesse Buckley.
Oui, moi, j'ai lu des comptes rendus du Festival de Toronto, où il a été projeté, où vraiment les gens étaient dans un état limite, fallait qu'ils prennent des antidépresseurs pour supporter ce film pendant la projection Thierry Chaise, vous comprenez ça? Non, mais... parce que ça les mettait dans un état de stress incroyable en fait.
Je pense que moi j'ai tenu longtemps parce que je pense par l'actrice, parce que d'un seul coup elle est tellement impressionnante qu'on arrive à être dans sa peau et que je pense qu'on fait ça parce qu'on peut projeter, et c'est ce que disait tout à l'heure Corinne Rondeau et tout ça, mais 50 000. Donc, en effet, si on est dedans et qu'on a 50 000 pistes possibles, on se met en situation de stress. Mais c'est déceptif le résultat de ces 50 000 possibilités à l'arrivée dans le film.
Voici donc pour Jersey Affair, allez voir par vous-même, de Michael Pierce, sorti le 18 avril dernier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Troisième et dernier sujet de cette dispute cinéma, une fois n'est pas coutume, c'est un moyen métrage. Le film dure une heure, signé Stéphane Demoustier, intitulé Allons enfants, filmé avec un dispositif léger. Le film suit Cléo et Paul, deux bambins qui jouent dans le parc de la Villette à Paris, sous la surveillance de leur nounou. Nounou qui perd de vue la petite Cléo. La fillette se retrouve alors à errer dans le parc à la recherche d'adultes amis.
Cléo, on joue plus là, hein? Reviens.
Cléo! Paul!
Ils sont où tes parents? T'es toute seule?
Oui.
Tu te souviens de ton adresse?
Non, 41 rue Manin.
41 rue Manin?
Oui. C'est pas là!
Elle est de quelle couleur ta porte?
Elle est bleue. C'est celle-là. Ça, c'est foncé, oui. J'ai une porte pas foncée, moi.
Alors pour le coup, moi, je l'ai vraiment vécu comme un cauchemar, ce film, en tant que mère. Et vous, Muriel Joudet, comment vous l'avez vécu, ce film, Allons enfants?
Je ne suis pas mère, mais je l'ai quand même vécu comme un cauchemar. Non, la bande-annonce est très parlante, en fait. Il y a un côté informe qui ressemble exactement au film. Alors, je voulais pas être violente, mais en fait, tout ce que j'ai à dire est violent, donc je vais l'être. C'est que c'est vraiment tout le contraire de Jersey Affair. Oui, j'essaye de faire des ponts entre des films qui se comprennent pas du tout, mais où il y a trop de cinéma dans Jersey Affair, et là, il y a trop de réel, on est au ras des choses, mais à un degré asphyxiant, même sur 59 minutes. Et on voit exactement où va le film. Il est du côté du petit fugitif, de tous ces films sur l'enfance, où les enfants se perdent et l'aventure commence. Mais moi, je ne vois que... Et puis, de fait, c'est quand même un cinéaste qui filme ses propres enfants, ce qui n'est pas un problème en soi, mais qui, pour moi, quand même... dit quelque chose de voilà, pour moi c'est ça, c'est un père qui filme ses enfants et qui nous balance la vidéo au visage, et je comprends pas pourquoi ça sort au cinéma. En fait, c'est la vraie question que je me suis posée, c'est même pour lui, je trouve ça assez désarmant que ça sorte au cinéma, parce que pourquoi quel est le public de ce film là quel est je sais qu'il y a Corinne et Thierry qui me regardent, mais je ne vois que du réel, je ne vois là où l'aventure et la rencontre doivent surgir, je ne vois absolument rien. Je vois des acteurs qu'on a chopé un jour et demi, Vima La Ponce par exemple, pour tourner des scènes, et on les sent, moi je la sens assez embarrassée de devoir jouer ça. Et donc j'ai l'impression d'être au ras des choses et qu'il ne se passe rien, et ça m'a paru assez interminable. Donc je préfère répondre et rebondir et écouter ce que vous avez à dire, parce que c'est un objet qui me désarme et qui, et je pense que c'est presque suicidaire de passer ça au cinéma.
Thierry Chaise.
C'est un objet qui est autoproduit. Je pense qu'au départ, il n'y a pas de distributeur, il a vraiment financé ce film. Il l'a montré à Berlin. Il se trouve qu'à Berlin, il a reçu un prix et qu'il a trouvé un distributeur. Donc, la démarche, puis les questions de qui va voir quel film, hélas, les scores de mes provinciales prouvent que même quand on voit des films pour le... Bon. Moi, j'ai marché à 100%. Moi, je ne suis pas du tout père. Généralement, les films avec les enfants m'insupportent, m'agagent. Je trouve que tout le monde joue faux. Ça me sort du film. Mais alors là, c'est tout le contraire. Moi, je ne savais pas que c'était ces enfants. J'avais pas fait attention. J'ai un de début, en ce que j'ai vu à la fin. Je trouve qu'il y a un côté, justement, d'habitude, lorsqu'un adulte filme les enfants, très souvent, les enfants finissent par se comporter comme des adultes, et ça m'ennuie profondément. Il y a un côté singe chavant, et là, c'est tout le contraire. Alors, peut-être que ça va trop loin et que le réel est trop fort, mais je trouve qu'il y a une capacité à raconter, justement, cette enfance et à laisser une part d'enfant, justement, des moments dans 59 minutes, en effet, qui peuvent paraître un peu ennuyeux comme adultes qui regardons, mais d'un seul coup, on se dit peut-être que là, d'un seul coup, l'enfant, au moment où nous, on s'ennuie, a tout un imaginaire. Et je trouve que ce que ce film arrive à capter, c'est cette part-là, cette part d'inventivité, ce terrain de jeu. Ça devient, voilà, c'est Lost in Belleville, quoi, en quelque sorte. Et ce terrain de jeu, moi, me fascine. C'est tout ce que le film ne montre pas, presque, qui me plaît et qui fait que d'un seul coup, je suis avec eux, je trouve qu'ils sont justes, je trouve que, en effet, là aussi, on peut avoir 50 000 références, on va évidemment penser à Truffaut. Et le film, pour moi, ne l'ordre. Si c'est pas du Truffaut, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas cette maîtrise-là, mais il y a cette liberté donnée, que d'un seul coup, donner cette liberté à ces enfants-là, c'est aussi avoir une croyance en sa capacité à saisir des choses. Et je trouve qu'il saisit les choses parfaitement, qu'il en fait justement 59 minutes et pas une heure et demie, et que, alors, Vima Laponce arrive là-dedans comme une grande enfant, et moi, alors, je trouve qu'au contraire, elle s'amuse comme une petite folle. Donc, j'ai vraiment vécu le film totalement différemment.
Corinne Rondeau.
Ouais, alors, moi non plus, j'aime pas trop les gosses. Au cinéma, dans la vie aussi. Mais... Non, mais ils ont 3 ans. Ce sont des jumeaux, Paul et Cléo. 3 ans, vous pouvez rien faire avec des gosses, sauf leur dire, va là-bas, vas-y. Et moi, ce que... Alors... Non, mais vous ne pouvez pas les diriger, c'est ça que je veux dire.
J'aurais bien aimé qu'ils tombent sur vous.
Essayez. Ah, mais je m'en fous, les enfants, faut le savoir. Hein. Parce que j'ai à peu près leur âge, en fait, mentalement. Donc, bon, bref, on se tait. Je vais être sérieuse avec ce film. Non, alors moi, j'ai passé une heure de fraîcheur. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à ce film. Je me suis dit, aïe, 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 la misère sur moi. Et en fait, pas du tout. Ce qui m'a intéressée, c'est, là, pour le coup, c'est un film qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que le fait de faire une heure, ce n'est pas avoir l'ambition de mettre les enfants en jeu et les scénariser. Mais comment, sur une petite forme et avec peu de moyens, on arrive en fait à vouloir chercher quelque chose d'autre à la fiction. Et je trouve que ces enfants, en fait, n'apportent que ce qu'ils sont, c'est-à-dire courir, pleurer, crier, chercher, s'amuser. Et c'est la raison pour laquelle il fait disparaître comme ça ses acteurs. La nounou disparaît dans un flou, on se dit mais pourquoi ? L'actrice qui va la prendre et qui se dit mon Dieu, j'ai un rendez-vous, faudrait que je la lâche et tout ça. Et je trouve que ces moments sont justes parce que la petite, elle va voir au loin le parc de Belleville et puis on va la retrouver à Belleville. On se dit mais c'est pas possible. Mais cette improbabilité du scénario ne tient qu'à une sorte de magie de l'enfance qui est mais je suis déjà là-bas en le voyant. Donc je trouve qu'il s'est mis vraiment à la hauteur de l'enfant et ces éléments-là sont un petit peu, même le début, la petite se perd et puis ensuite la jeune femme va aller vers quelqu'un, le poste de sécurité, en disant bah, allez, la police d'abord, la police dit oh, allez au poste de sécurité, le poste de sécurité dit retournez là où vous étiez, c'est chapeau de paille, paillasson, etc. Mais dans la réalité, et on se dit mais personne ne prend de responsabilité. C'est-à-dire, personne n'est responsable d'eux. Et en fait, le film parle de ça. Et même en termes de cinéma. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait quelque chose qui est lié justement à l'art ou à la culture, ou l'art dans la culture dans l'art, peu importe. Et je trouve que cette petite forme qui est une manière de, ben voilà, de mettre de la vitalité dans un espace qui est l'espace contemporain, à savoir tout le monde est sur son téléphone, puisqu'en fait il a filmé les gens qui étaient en train de jouer au Pokémon, donc il a eu des figurants sans faire autre chose que de les filmer. Donc les gens sont comme ça pendant que la petite passe à travers leurs jambes. Et par ailleurs, il y a cette jeune femme qui va la prendre sous son aile et puis en fait elle va rencontrer son ancien amant qui lui ramène un sac de godasses. Et en fait dans le cinéma on aurait eu quoi? Alors pourquoi tu m'as quitté, etc. Eh ben non, elle va jeter les godasses à l'eau avec la petite. Et en fait ce qui est réjouissant, c'est de se dire qu'effectivement il est plus important peut-être aujourd'hui de jeter mon passé que d'essayer de le retrouver. Et cette petite, ces deux enfants finalement qui sont filmés en montage parallèle puisqu'ils vont se perdre tous les deux, ils sont juste une manière de nous dire bon ben voilà, notre temps c'est de pas nous voir. Et quand on se voit pas, puisqu'il y a aussi le passage avec Vigipirate avec des militaires et le petit qui dit ah ben alors tu as tué des gens, je sais plus, enfin il se passe quelque chose de la mort, évidemment c'est post-attentat 2015, enfin. Et donc je trouve que ce film, avec pas grand-chose, il a une manière de nous conduire à une question quand même qui est un peu centrale, tant qu'on ne la délègue pas sur le discours des autres, c'est est-ce que je suis responsable de ça ? C'est-à-dire même d'un enfant qui n'est pas le mien.
Oui, je trouve étonnant ce que vous dites, Muriel Joudet, sur le côté réel, trop de réel, alors que moi, je trouve qu'au contraire, c'est totalement invraisemblable. C'est-à-dire que des enfants de 3 ans qui se perdent dans un parc, ils vont voir n'importe qui, quelqu'un les prend en charge. Pour le coup, là, il y a une errance qui est totalement cinématographique dans la mesure où elle est écrite. Enfin, c'est, oui, pour moi, je trouve que c'est extrêmement scénarisé. Et je trouve même que le point de vue du réalisateur, parce que ce sont ses enfants, est assez risqué. Même pour lui, je trouve, il se met en danger à mettre ses enfants dans cette situation-là. Même dans cette fiction-là, il y a un côté sadique pour eux, masochiste pour lui. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il est très intense. Et je trouve, en effet, il y a aussi beaucoup de choses dans une forme très courte.
Non, c'est enfin là, je pense qu'il y a vraiment juste je n'ai pas adhéré au film, au sens où je pense vraiment le contraire de pour moi, la fiction ne commence à aucun moment et je vois pas de prise de risque, je vois surtout du confort, et le confort qui consiste surtout à penser que filmer des enfants ça suffit, c'est déjà en soi cinégénique parce que c'est mignon, je sais pas, ça rigole, ça pleure, ça pète, enfin c'est il y a un côté,
non mais
il y a
un mais côté, tout le monde déteste les films avec les enfants.
Non, justement il y a une sorte de cinégénie qui va de soi quand on filme des enfants, c'est tout, il y a quelque chose qui advient, voilà, c'est le naturel à l'état pur, et j'ai le sentiment que du coup il peut se passer d'un regard sur ce qu'il filme, c'est-à-dire bah voilà, je délègue aux enfants la part de cinéma de mon film puisque c'est eux qui font tout, et moi je ne vois pas de regard et je vois beaucoup de confort, et étonnamment oui, ça me gêne et ça me met presque en colère que c'est très bête, mais à partir du moment où j'aime pas le film, que ce réalisateur filme ses enfants et fasse une sorte de home movie, et comme ça marche pas sur moi, il y a une réaction de rejet extrêmement puissante, qui fait que même le dispositif en soi, je le rejette en bloc. Voilà.
Je sens qu'on entre sur des terrains psychanalytiques assez élaborés en fait avec ce film.
Je suis babysitter, donc voilà.
Ah voilà, bah ouais, mais tout s'explique. Thierry Chaise.
Je suis d'accord avec vous, Lucille. C'est vraiment. C'est en effet. Je trouve complètement ça. Moi, je suis. Non, moi, je trouve que justement, l'enfant au cinéma n'est. C'est souvent pas du tout du cinéma. C'est souvent totalement l'inverse. C'est que ça me sort plutôt du film. Et je trouve que c'est compliqué admettons qu'il délègue sur une base donnée aux enfants, mais en tous les cas, il change pas de pied au milieu et reprend pas le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il a au moins une capacité à observer. Alors, sans doute à diriger, mais moi je me demande comment on peut diriger enfants.
Il dit qu'il ne les a pas vraiment dirigés, mais bon, moi, à mon avis.
Il peut donner des indications, mais c'est quand même un peu étrange. Mais il y a une espèce de cohérence de bout en bout. Moi, je trouve vraiment intéressant. Et justement, ce mélange entre évidemment une pure fiction, parce que ça ne pourrait pas. Enfin, ça peut commencer comme ça, mais sinon le film s'arrête au bout de 2 minutes, puisque quelqu'un dit où est l'enfant, il est là, et le film est terminé. C'est un court-métrage que vous auriez préféré. Oui. Et voilà, non, mais je trouve que ça. Enfin, ça a un charme absolument renversant.
Corinne Rondeau.
Oui, non, mais j'ai pas grand-chose. Mais je peux comprendre, hein, Muriel. Moi, ça me gêne pas qu'elle s'énerve. Bon, je trouve simplement dommageable qu'il s'en prenne autant. Vous voyez ?
Non, mais.
Mais je veux juste dire ça parce que je pense que ce film est sincère. Je pense que le réalisateur est sincère avec ce qu'il fait. Et je pense qu'il n'a pas voulu en rajouter en disant je mets un enfant parce que c'est sympa, un enfant. Moi, pour moi, a priori, un enfant, ce n'est pas sympa. Et ce que j'ai bien. Non. Non, mais ça va bien. Non, mais je m'amuse très bien avec eux. Mais il ne faut pas aller au-delà. Mais ce que je veux dire, c'est que le réalisateur arrive quand même à penser la question de la fiction en venant simplement produire une sorte de parasitage avec les acteurs, parce qu'on voit bien parfois que l'actrice est désarçonnée. Mais ça passe, c'est-à-dire, effectivement, vous pouvez entendre ça comme une surchauffe du réel, quoi. Bon, je peux comprendre que ça peut vous... Mais moi, par ailleurs, j'ai trouvé que, d'abord, parce que c'est court, je trouve qu'il n'y a pas de prétention, et que par ailleurs, il y a ce côté... faire avec peu, et quand vous dites ça ressemble quand même à une vidéo que les parents peuvent faire sur leur gosse, pardonnez-moi Muriel, mais là vous y allez un peu avec les godasses bien cramponnées. Donc c'est juste pas, moi je le connais pas le réalisateur, j'ai pas de royalties, hein, donc, mais je trouve que là vous avez plutôt la dent dure sur quelque chose qui est expérimental, parce qu'avec deux gosses qui ont 3 ans, vous pouvez pas faire autre chose que de bricoler quelque chose avec du réel et aussi de la fiction. Donc c'est comment, à des moments donnés, on peut trouver des petits temps de déséquilibre ou des petits temps de retrouvailles, on va dire. Mais de toute façon, tout ce qui est lié au jeu, les acteurs disparaissent du film. Donc on voit bien que c'est où est-ce que mes enfants ou les enfants vont-ils nous mener ? Bon, post-attentat, moi je l'entends, voilà.
Non, mais vous avez utilisé la bonne formule, c'est sans prétention. Et moi, ça me gêne. C'est-à-dire qu'un truc avec aussi peu de prétention, ça me dérange que ça sorte au cinéma. Parce que aussi, je reviens de Brive, j'ai vu beaucoup de moyens-métrages, il était sélectionné, j'ai vu des trucs absolument magnifiques et qui ne sortiront pas au cinéma. Et ça me dérange que peut-être le truc que je vois.
Mais ça, on y est pour rien.
Oui, mais il y a quelque chose.
Non, mais c'est intéressant cette question du format. Parce que, en effet, les films Brive, c'est un festival de moyens-métrages qui existe depuis 2004 et qui, en fait, est le seul, je crois, dans le monde à faire ce travail-là. Ouais. Et ce format-là, moi, je trouve qu'on y revient un petit peu. Il y a plusieurs films français, là, qui vont sortir, qui font moins d'une heure et quart, moins d'une heure et demie.
Alors, ils les couplent avec un court-métrage.
Oui, enfin, ils sortent en salle. Hein, Takara, dont on va parler dans quelques semaines, le film de Damien Manivelle, est extrêmement court, lui aussi. Et je me demande si les cinéastes français reviennent pas un peu à ce type de forme. Bon, là, en l'occurrence, on a parlé du Sivérac, mais un peu courte et pourquoi pas, en effet, les sortir au cinéma. Et c'est peut-être bon signe de ce point de vue-là, Muriel.
Oui, on peut voir, par exemple, Guillaume Braque, qui est passé au long, revenir au moyen-métrage. Donc là, il va sortir 2 moyens-métrages qui feront la durée d'un long. Enfin, Bertrand Mandicot, qui revient aussi, lui, au moyen-métrage, qui est sa forme un peu fétiche. Et donc, il y a une sorte d'aller-retour vers cette forme-là, même pour des gens qui sont passés au long-métrage. La question de savoir, est-ce qu'il y a un public... C'est ça, un peu, la question. C'est-à-dire que je me souviens d'un moyen-métrage absolument magnifique qui est sorti l'année dernière, qui a eu énormément de prix, le film de l'été, qui était pour moi le meilleur moyen métrage de 2016, un des meilleurs films
du monde.
Voilà, du monde, 2017. Et donc, c'est des films qui ont une longue vie en festival. Les réalisateurs font le tour du monde, le tour de la France, etc. Et puis, quand ça sort en salle, c'est une durée un peu bizarre. Et je pense que c'est des films qui ne trouvent pas forcément leur public parce que peut-être que... Alors, je ne sais pas si le tarif de la place de cinéma s'accorde sur la durée du film, mais c'est...
Probablement pas, non.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Puis, c'est forcément des cinéastes qu'on ne connaît pas, donc qui ne sont pas confirmés. Donc les gens savent pas ce qu'ils vont aller voir et du coup peut-être n'y vont pas. Donc
c'est Richard. Moi je trouve juste intéressant, il avait fait un premier long métrage qui s'appelait Terre battue, qui racontait un peu son histoire, lui, de jeune tennisman contraint et forcé. Et je trouve qu'être passé par là, j'ai très envie de voir le long métrage qu'il a tourné depuis et qui sortira cette année, parce que je pense qu'il y a aussi une force de régénérescence à faire ça. Et ce geste-là me donne envie, moi, de voir le prochain long fort de cette expérience à nos enfants.
Et puis juste pour finir, moi, sur Vima Laponce, qui est une actrice qu'on voit beaucoup dans un cinéma français jeune et qui joue toujours un peu des rôles de personnages sympathiques, un peu choux, très mignonnes. Et là, elle a vraiment un rôle extrêmement dur et sévère. Et je trouve que c'est intéressant de la prendre à contre-emploi. Donc voici pour Allons enfants, qui est donc un film court, un film de Stéphane Demoustier, et il est en salle. C'est bientôt l'heure de conclure cette émission, mais non sans savoir jouer. Camille André est là, qui nous rappelle d'abord la question d'hier et nous en donne la réponse.
Pour quelle raison aucun discours de Martin Luther King n'est présent dans le biopic Selma ? Eh bien, les droits du discours ont été vendus à DreamWorks et ne peuvent être inclus que dans un film produit par Steven Spielberg.
À gagner ce soir des invitations pour Atelier à la loupe, une exposition en quête de Damien Helvès. C'est jusqu'au 9 septembre au musée En Herbe à Paris. Et la question, Camille ?
Dans Atelier à la loupe, on entre notamment dans celui d'Andy Warhol. Quel réalisateur américain a donné le rôle du célèbre peintre new-yorkais à David Bowie ?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de lundi, vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter DisputeFC avec le hashtag La Dispute. Lundi, La Dispute sera consacrée à la danse. Je serai entourée d'Anna Sigalevitch, de Philippe Noisette et de Florian Guettet. Avec au sommaire, Roméo et Juliette de Sacha Valls à l'Opéra Garnier à Paris. Nouvelle pièce courte de la compagnie DCA, Philippe Decoufflé, c'est à Chaillot. Et un DVD, Ingmar Bergman, vu par les chorégraphes.